Les plumes sur RCN, présentées par Mona.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Genet pour son roman L'ombre et le pouvoir, publié en auto-édition. Avec nous également John Bullitt qui nous fera la lecture de sa nouvelle La journée du championnat. Alors bonjour à vous deux et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Aurélie, comment en êtes-vous venue à écrire ?
Oh, j'ai toujours écrit, on peut dire, en fait. J'ai des livres depuis que je suis vraiment toute petite. Et en fait, dès que j'ai su écrire, j'ai écrit.
D'accord. Et c'est un besoin, un plaisir, c'est quoi ?
Ah, les deux à la fois.
Les deux à la
fois. C'est un plaisir, mais c'est un besoin.
D'accord. Alors, L'ombre et le pouvoir fait partie d'une série consacrée à un royaume imaginaire, l'Araldé. Alors, comment vous est venue l'idée de créer tout un monde et avez-vous été influencée par une œuvre ou un auteur ?
Alors, cette idée est très ancienne, en fait. Je ne sais pas vraiment d'où elle est venue, mais je peux vous dire exactement quand elle est apparue. C'était à Pâques 1989. J'avais 10 ans.
D'accord.
Et évidemment, ça a beaucoup évolué depuis. Hein,
mais je me doute.
Voilà, et ce monde-là m'est venu en tête. Alors, je ne sais pas du tout de où. Et voilà, j'ai voulu le développer à travers différentes choses. Mais j'ai beaucoup attendu avant de me pencher dessus. J'ai écrit d'autres choses avant de me consacrer vraiment à ce monde-là qui me tient particulièrement à cœur.
Oui, oui. Et vous avez été influencée par quelque chose ? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire, de créer tout un monde comme ça ?
Alors,
des lectures ?
Créer un monde, je sais pas. En fait, à l'époque, je ne lisais pas d'imaginaire. La fantasy, je ne savais même pas que ça existait. Mes lectures, c'était plutôt romans d'aventure, le Cap-et-Épée. Et donc, en fait, ça s'inspire plus de ça que oui. De fantasy.
Oui, moderne.
Moderne. Oui, voilà,
oui,
c'est
oui,
ça.
D'accord. Oui, oui, d'accord. Alors, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs ce qu'est ce royaume, l'Araldé, et où il est situé ? Parce que c'est un petit peu compliqué.
Alors, l'Araldé est une sorte en fait, de miroir de la France, qui se situe sur un continent appelé Urinthe, qui est pareil, qui est une sorte de miroir de l'Europe, en fait. Hein. C'est vraiment très proche du monde réel,
oui.
Avec un peu de magie, mais pas de créatures fantastiques ou de choses qui sont trop de notre monde. Et si j'ai voulu, aussi faire ce royaume imaginaire, c'est pour pouvoir raconter des histoires dans un contexte historique sans être bloqué par la réalité historique. Voilà, parce que j'aime bien aussi l'historique,
oui.
Mais si on situe une histoire en France à telle ou telle époque, on va être obligé de respecter tout, de respecter les grands personnages historiques, la situation du pays, alors que là j'ai une certaine liberté tout en gardant une ambiance historique.
Oui, d'accord. Alors vous avez tout créé. Le
oui.
Nom des régions, des peuples, des fleuves, des montagnes,
oui.
Et des familles. Alors, comment avez-vous choisi ces dénominations ? C'est le fruit d'une longue réflexion ou c'est un choix qui s'est imposé à vous ?
Alors, j'ai beaucoup de mal avec les noms, à trouver des noms propres. Ça,
oui.
c'est vraiment difficile. Mais là, je voulais quand même des noms avec une consonance française, en tout cas pour ce qui se passe en Araldé.
Oui.
Pas pour les pays autour, hein, mais... Mmh. Parce que je trouve que souvent en fantasy, il y a des noms un peu tordus, on va dire, qu'on a du mal à retenir. Et comme moi, j'ai du mal avec les noms, je préfère prendre des noms qui soient faciles à retenir pour moi.
Oui, oui, d'accord. Et alors, vous avez donc tout créé, comme je disais, mais vous avez également créé tout un panthéon de dieux et de déesses.
Oui, alors ça, c'est vraiment le point qui s'éloigne
oui.
de notre monde. C'est un petit peu comme si les divinités, le polythéisme romain avait perduré
oui, c'est
au lieu de passer au christianisme. Et donc là, c'est vraiment le point le plus complexe, on va dire, du lore de ce royaume. C'est au niveau du panthéon, puisqu'il y a de très nombreux dieux.
Oui, il y en a des mineurs, des majeurs.
Voilà, c'est ça. Donc il y a des dieux mineurs et il y a 9 dieux majeurs.
Mm-hmm.
Et... ces 9 dieux, par contre, ne sont pas toujours les mêmes. C'est-à-dire, selon les époques, un dieu peut passer de mineur à majeur et inversement, ce qui induit une certaine... entre les dieux
une espèce de compétition
oui, voilà, entre les différents clergés, on va dire, des différents dieux qui voudraient que leur dieu soit en avant par rapport aux autres.
D'accord. Mais bon, comme ça dépend de leur influence, du coup, après.
Oui,
ça
va dépendre du système politique, ça va dépendre de la période, ça va dépendre aussi si on est en temps de paix, en temps de guerre. Les gens vont avoir plus tendance à se tourner vers un dieu ou vers un autre, selon la situation.
Oui, ils sont interchangeables, c'est ça qui est pas mal.
Voilà.
Alors, vous êtes inspiré d'une mythologie qui existe, comme les Vikings ou...
Alors là, non. Au niveau du Panthéon, non. Après, ça rejoint automatiquement les polythéismes qui peuvent exister, c'est-à-dire que les dieux représentent chacun quelque chose dans la réalité.
Oui, oui.
C'est-à-dire, par exemple, la vie ou la nuit ou les fleuves, voilà.
Oui, oui. Ou la maternité.
Ou la maternité, oui.
Oui, oui, d'accord. Alors, l'ombre et la lumière, vous pouvez nous situer à peu près à l'époque ?
Oui, alors ce serait plutôt milieu XIIIe siècle, à peu près.
D'accord.
Enfin, deuxième moitié du XIIIe siècle.
Mm-hmm. Pourquoi j'ai dit la lumière, c'est l'ombre et le pouvoir ? Excusez-moi. Et donc, c'est l'histoire, un peu, qui raconte l'histoire de deux frères, un petit peu rivaux.
Oui.
Eudes et Hugues d'Orissy. Vous pouvez nous en parler un peu de ces deux frères que tout oppose à presque.
Oui, donc en fait, ce sont deux frères de toute petite noblesse, hein, qui sont les fils d'un hobereau vraiment qui est à la frontière du royaume et qui se retrouvent entraînés malgré eux dans quelque chose pour lequel ils n'étaient pas destinés. Donc, en fait, l'aîné, Eudes, se retrouve malgré lui envoyé à la guerre dans l'os royal. Et à cette occasion, il sauve complètement par hasard son suzerain, qui est un très puissant seigneur, et qui va le prendre sous sa protection et l'emmener avec lui à la capitale. Eudes est quelqu'un d'assez naïf,
oui.
Positif. Et à côté de ça, bon, son frère Hugues, qui est toujours un peu jaloux d'être le second.
Pas qu'un peu, d'ailleurs.
Ça augmente avec le temps.
Oui, c'est ça. Oui.
Décide d'aller à la capitale par ses propres moyens. Et comme il ne connaît rien, en fait, il ne connaît rien du monde que sa petite vallée, son château où il a grandi. Il pense qu'il va arriver à la capitale et que les portes vont s'ouvrir, qu'on va le reconnaître, en fait. Et quand il arrive là-bas, bien évidemment, c'est une grande ville. Hein, donc il n'arrive pas à retrouver son frère et il se retrouve, lui, dans les bas-fonds, en fait,
oui, c'est ça,
de la ville.
Oui, parce qu'il faut préciser que ce sont des petits nobliaux, en fait.
Oui, ils sont très pauvres.
Très pauvres, c'est ça, oui. Ils connaissent, en fait, ils connaissent rien de la vie, puisqu'ils
non,
connaissent que
ça.
Leur petit univers, c'est ça.
C'est ouais. Ça, oui, complètement.
Oui. Mais bon. Comment donc ? Il y a Hugues, on sent qu'il est, comment donc, il a l'impression que tout lui est dû, en fait, qu'il est appelé à pas régner, parce que ça ne vient pas tout de suite, mais que quelqu'un lui doit quelque chose, en fait, que la vie lui doit quelque chose.
Ben, il a en fait une sorte de délire de persécution, je dirais, c'est-à-dire qu'il a l'impression que tout est contre lui, alors que c'est lui qui a raison. Et que les autres sont favorisés par rapport à lui,
oui.
Alors qu'en fait il pourrait avoir, une vie tout à fait correcte et avec des gens qu'il aime. Mais ça, il le voit pas.
Oui,
il est omnubilé par son idée, par l'idée que voilà, il peut faire mieux que les autres et qu'il pourrait faire de grandes choses et que les autres ne voient pas ça. Et que ça devrait être pour lui et pas pour les autres.
Oui, mais tout, c'est un petit peu dans sa nature. C'est pas seulement le fait que son père préférait le fils aîné, puisqu'en fait, c'est toujours, à cette époque-là, c'était le fils aîné qui héritait, en fait, de tout.
Oui, parce que, bon, il y a le fait, effectivement, que c'est le fils aîné qui doit hériter, mais lui, il le prend vraiment comme quelque chose de personnel.
Mmh.
Et ce qui n'est pas tout à fait vrai, en fait. En
bien
plus,
sûr.
Son frère l'aime beaucoup.
Oui.
Il voudrait le protéger. Et voilà. Lui, il est... Oui, c'est sa nature. Oui. Il est jaloux, il est ambitieux.
Mais en même temps, il a quand même une certaine affection pour son frère.
Ah oui,
hein,
oui, oui.
C'est ça qui est un petit peu ambivalent, parce que... On a un peu du mal à le comprendre.
Oui, c'est un personnage qui est paradoxal. Hein.
Oui, oui.
De toute façon, il fait du mal aux autres et il s'en fait à lui-même, finalement. Hein. Il n'est jamais heureux. Hein.
Oui. Mmh. Alors, il y a aussi deux beaux personnages féminins. Marguerite de Barrange, de noble ascendance, et une esclave. On se dit Nadao, c'est ça?
Oui.
Nadao. Vous pouvez nous en parler un petit peu de ces deux femmes?
Donc, ces deux femmes qui, ben, par la société dans laquelle elles vivent, sont dans l'ombre.
Mmh.
Elles ont droit à peu de choses, finalement, mais elles sont toujours là, elles sont derrière, elles sont actrices aussi,
oui.
Finalement, de leur vie, dans la mesure où on les autorise à le faire. Et donc, Marguerite a été élevée vraiment... dans la richesse et par son père, mais tout en sachant que en fait, si elle doit, c'est elle qui doit avoir l'héritage de son père, cet héritage sera son mari,
oui,
et pas elle.
Oui, mais en même temps, son père a fait en sorte qu'elle soit en mesure de gérer son patrimoine, en fait.
Ah voilà, oui. C'est-à-dire que pour son père, la famille qui est importante, c'est la sienne.
Bah oui, c'est ça.
Voilà, et bon, par la loi, elle est obligée, finalement, de se marier et de transmettre à son mari, mais il faudrait que ce soit elle qui garde le vrai pouvoir.
Le vrai pouvoir, oui, c'est sûr. En même temps, c'est un peu aidé, c'est un petit peu dans la coutume de ce moment-là, puisque le roi Jean est un roi faible, et en fait, c'est sa femme qui gouverne.
Oui, mais c'est toujours de façon indirecte.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'elle n'a pas le pouvoir. Elle l'utilise, mais elle ne l'a pas. Et d'ailleurs, c'est reproché par les autres personnages quand le fait que le roi soit faible et que ce soit la reine... qui semble tenir les rênes, n'est pas très apprécié. Et en fait, on est dans ce royaume à une période justement de basculement du pouvoir, où jusque-là, les femmes avaient droit à un certain accès au pouvoir et sont en train de le perdre. En
fait. Oui, tout à fait. Ça ressemble un peu à ce qu'on a connu en France.
Oui,
hein,
tout à fait, oui, complètement.
Il y a aussi, bien sûr, tous les voisins qui veulent conquérir le royaume. Donc, il y a des guerres, beaucoup.
Oui, mais c'est une période de guerre externe et de guerre interne, en fait.
Oui, c'est ça.
C'est un royaume qui est encore un royaume féodal, donc il n'a pas un pouvoir centralisé encore très fort.
Oui, oui.
Et donc, il est facilement à la merci des autres, des voisins et de ses propres grands seigneurs qui voudraient aussi plus de pouvoir.
Oui. Bon, alors la magie aussi est présente dans votre récit. Alors notamment avec le pouvoir des dieux et des prêtres, hein, ça n'a pas trop changé. Enfin, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a connu dans certains pays.
Voilà, là, elle est matérialisée en fait.
Oui. Mais pourtant, vous faites dire à Hugues, la magie, j'ai l'impression qu'elle se limite à susciter des légendes et à faire de jolies lumières. C'est une phrase que vous pourriez reprendre à votre compte?
En fait, c'est une image, c'est-à-dire que là, la magie existe, elle est matérialisée, mais finalement, en soi, elle n'est pas un pouvoir. Elle est ce qu'on en fait.
Oui. Hein,
le pouvoir, il est au niveau des prêtres et de la façon dont ils vont réussir à orienter les choses pour gagner en pouvoir.
Oui, bien sûr. Mais en même temps, ils ont quand même quelques pouvoirs.
Ils en ont quand même, c'est quand même réel. Comme je disais, c'est matérialisé.
Mais... Oui, c'est matérialisé, parce qu'il y a la grande peste, effectivement, hein, qui décime un petit peu tout ça. Bon. Ben, en même temps, la ville, la capitale, elle est immense. Mais c'est quand même, c'est un peu difficile d'y vivre, sauf si on est effectivement de haute extraction. Le reste, c'est quand même des bas-fonds.
Oui, c'est une ville assez sombre.
Mmh.
C'est une ville qui est très peuplée, qui est trop peuplée, en fait.
Mmh.
Et c'est cette promiscuité et la pauvreté qu'il peut y avoir dans certains quartiers... qui fait que la vie est particulièrement difficile.
Ben oui, ça c'est vrai. Ouais. Alors nous allons revenir après I Feel Good par James Bond.
Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. knew that I would not. So good, so good, I got to you. Wow, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would.
Les plumes sur RCN, Mona.
Nous sommes toujours avec Aurélie Genet, venue nous présenter son roman L'ombre et le pouvoir, publié en auto-édition. Avant de continuer avec le monde d'Aurélie, John Bullitt va nous faire la lecture de sa nouvelle La journée de championnat.
Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé exactement, monsieur Gallet ?
Mais oui, tout à fait, je me souviens très bien. C'était dimanche dernier. Le dimanche 23 juin, vers 16h, je jouais mon dernier match de tennis de table, de ping-pong, dans notre salle de sport, à Guéret dans la Creuse. Vous voyez, je me souviens de tout.
Tout à fait, monsieur Gallet, tout à fait. Mais poursuivez.
Alors, j'étais donc le capitaine de mon équipe, monsieur le commissaire. Au sortir de mon dernier match perdu contre un joueur adverse, j'ai quitté la salle ainsi que mes coéquipiers. Ah oui, je me souviens très bien avoir enfilé dans les vestiaires mon costume moyenâgeux que je porte présentement. J'entendais d'ailleurs mes coéquipiers qui riaient et s'écriaient
« Hey John, John, hey, qu'est-ce que tu fais John? Reviens, mais où tu vas ?»
Mais sans tenir compte de leurs appels, Je crois bien me souvenir être monté sur mon vélo, coiffé de mon home. Un fort joli casque d'ailleurs, don de ma pucelle de cousine qui est un faible pour moi, je crois, et qui aimerait...
Monsieur Gallet, pas de détails, allons au fait.
Pas de problème. Alors, donc je déboulais sur la grande route, toute proche dans cet apparat, sans même faire attention à la circulation. J'évitais de justesse la collision avec un motard, lui aussi coiffé d'un casque médiéval en fer. Un casque chaussé de fort jolis motifs. Sur le dessus, je m'en souviens très bien, oui, des croix celtiques, des lions affamés, des dragons vomissant leurs flammes. Vous voyez, je me souviens de tout.
Oui, c'est cela. Donc, d'après vous, monsieur Gallet, vous auriez rencontré dans la rue d'autres personnes et tous dans des costumes identiques aux vôtres. Vous en êtes sûr ?
Et bien sûr, la rue était pleine de ces individus costumés comme moi, monsieur le commissaire. Alors, au hasard, je me suis dirigé vers ce qui semblait être le centre de la fête, là où tout le public en habit rutilant déambulait. Certains, monsieur le commissaire, étaient même chargés de hallebardes et de lourdes épées de combat. Si, je vous l'assure. Au bout de quelques minutes, je suis enfin arrivé au centre de toute cette agitation. Et là, monsieur le commissaire, sur un canapé, bien sagement assis aux côtés de deux ou trois de mes adversaires du précédent match de tennis de table, se tenait Kylian Mbappé. Oui, Kylian Mbappé, le fameux footballeur discutant avec eux de son dernier match de foot avec l'équipe de France. En tirant mon casque un peu interloqué de le trouver à cet endroit, je l'ai entendu me demander s'il devait aussi signer la feuille de match de la défaite de mon équipe de ping-pong. La feuille de match. J'avais beau jouer au célèbre ping-pong club Sporting de Guéret dans la Creuse, j'ai quand même trouvé étrange qu'un joueur de foot très connu comme ce Kylian Mbappé veuille signer la feuille de match à ma place. Moi, non, on me la fait pas à moi, monsieur le commissaire. Je suis vif pour ces choses-là. Je pressentais la blague, peut-être même l'émission en caméra cachée pour une télé. Non. Et puis, finalement, à la réflexion, je me suis dit, peut-être bien que ce monsieur Mbappé pouvait ou devait signer cette feuille de match, car après tout, les règlements sportifs changent si vite maintenant. Alors, j'ai déclaré, j'allais à monseigneur auprès de l'arbitre. Je me suis retourné et c'est là que je les ai tous entendus rire. Alors, soudain, j'ai eu un doute sur la personne célèbre en question sur ce footballeur. Était-ce bien lui, un sosie, ce Mbappé Alors, pour être sûr que c'était bien lui, j'ai voulu voir si son nez cassait aussi facilement sous les coups, comme je l'avais vu une fois à la télévision d'un match contre l'Autriche. J'avoue que j'aurais peut-être pas dû lui taper sur la tête de manière aussi forte et lui recasser son nez d'un seul coup avec mon casque en ferraille. Mais comprenez mon désarroi, monsieur le commissaire, il était sûrement de mèche avec mes adversaires de ping-pong tout à l'heure. Il cherchait à se moquer de moi. Non, Kylian Mbappé. Et pourquoi pas les deux frères Lebrun du ping-pong pendant qu'on y est. Non, on me la fait pas, moi. Alors, quand tous ces sbires, sûrement de mèche avec lui, me sont tombés dessus avec leurs filets, là, déguisés en policiers, eh bien, je les ai frappés tous, avec mon casque. Oh, j'en ai laissé quelques-uns sur le carreau et quelques-uns avant qu'ils m'amènent ici, devant vous, monsieur le commissaire.
Monsieur Gallet, je ne suis pas commissaire, mais médecin. Je suis mandaté pour vous examiner. Avez-vous des troubles de la vue ou de l'audition suite à votre bagarre avec les policiers lors de votre interpellation? Pouvez-vous me dire combien de doigts je vous présente?
J'ai compris. Vous êtes aussi de mèche avec eux, les doigts. Les doigts, tu sais où tu peux te les mettre, commissaire de mes deux? Non. Puisque c'est comme ça, je veux parler maintenant au président de la République. Sinon, je fais tout sauter.
Monsieur Gallet, calmez-vous. De toute façon, vous êtes attaché en simple chemise, alors comment comptez-vous faire sauter l'hôpital de la ville?
Ah, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Jamais, monsieur le commissaire de mes deux.
Se baissant rapidement, Gallet, de sa main libre, saisit dans sa chaussure gauche le pain de TNT qu'il y avait caché et dans sa chaussure droite le détonateur avant que le médecin et le gardien de la salle, médusé, n'aient pu esquisser le moindre geste.
Ah, on fait moi le mariole, hein, le petit commissaire. Hein, alors, maintenant, on va faire un petit jeu à ma façon. Voilà, je vais compter jusqu'à 10, hein, et vous devrez m'apporter mon casque médiéval avant que j'arrive à 10.
Monsieur Gallet, c'est pas sérieux. Gardien, faites quelque chose. Je ne peux rien faire qu'appeler du renfort. 1, 2, 3, il ne reste plus que 7 secondes pour nous tous, mon cher commissaire, avant que ça pète. Attendez, je réfléchis. Mais, monsieur Gallet, je ne sais pas comment faire pour... 4, 5, 6... À présent, il ne reste plus que 4 secondes avant... Attendez, monsieur Gallet, on va arranger cette affaire. Le gardien va vous chercher votre casque. N'est-ce pas, gardien, que vous allez chercher? Oui, je pars à la recherche, monsieur le commissaire.
On me la fait pas, gros malin, je l'ai vu ton clin d'œil. Il va aller me chercher mon casque, mais il va pas me ramener aussi tous ses petits copains flics par la même occasion. Non, non, non. Il va téléphoner, le gars, pour faire apporter le casque. Seulement téléphoner, et tout de suite devant moi, sinon... et boum.
Oui, bien sûr. Téléphoner, gardien, téléphoner. Mais, monsieur Gallet, soyez raisonnable. Vous avez une famille, une épouse, des enfants, peut-être.
Affirmatif. J'ai tout ça, mais elle est partie de la maison la semaine dernière. Et quant aux enfants, ils font partie aussi du voyage, ils reviendront plus. Elle m'a dit que j'étais fou. Fou, quoi. Ah, allez, femme. Vous avez une femme, monsieur le commissaire de mes deux?
C'est personnel. Je n'ai pas à vous dire quelque chose sur ma vie privée.
Ouais. Ça ne doit pas aller bien fort, en clair. Hein. Je suis sûr qu'en fait, vous êtes dans la solitude la plus totale. Hein? Vous êtes même bien content de trouver des pauvres gars comme moi pour vous faire passer le temps et en voir assurance sur votre compte. J'ai pas raison, hein? Déjà que tu dis que t'es pas commissaire, mais que tu serais médecin, il faut assumer, mec, hein, faut assumer.
Je dis pas que c'est le paradis avec mon épouse, mais...
Ouais, le merdier total, hein? Pas de dialogue, l'hôtel du cul tourné, les enfants qui dépriment et foutent rien à l'école. Je vois bien le tableau, finalement. On est assez semblables tous les deux, hein? J'ai qu'à appuyer sur le détonateur et tous nos ennuis seront finis. Dites, excusez-moi, mais moi, le gardien, à moi, vous ne me demandez pas si j'ai pas aussi une belle petite femme, trois enfants adorables qui voudraient bien me revoir ce soir. Oh, toi, mouche à merde, on t'a pas sonné. Téléphone, fais ton boulot de garde-chambre. Allez, gardien, téléphonez, qu'on en finisse avec cette histoire ridicule d'explosifs. Gardien, remuez-vous un peu, mais qu'est-ce que vous foutez?
Non mais, du calme, hein, je suis pas votre défouloir à vous, hein. Si vous prenez sur ce ton, je vais la régler, moi, cette situation, tiens, avec mon pistolet.
Mais arrêtez, gardien, vous êtes fou, rangez-moi votre arme, ou sinon quoi, espèce de médecin, la noix. Moi, je suis à bout, je suis crevé, vidé, j'en peux plus. J'ai bossé déjà 50 heures cette semaine, je suis de garde. En plus, ce dimanche, alors que c'est l'anniversaire de ma femme. Tu sais combien il y a de soucis de flics ou de gardiens en France chaque année, hein? Des suicides de gardiens, il y en a plus de 50 par an. En 25 ans, ça fait 1100 suicides. Pas un de plus ou pas un de moins. Et avec toi, tu vois, Galet, ce mec-là, il m'a même fait contrôler une fois par la médecine du travail un jour où je me sentais pas bien et que j'avais dû rentrer à la maison. Et ce mec, il a dit que j'avais la grippe. Le minable. Tiens. Tu peux toujours la faire exploser, ta bombe, Galet. Si on en réchappe, je dirais que c'est le toubib qui l'a fait sauter, cette bombe. Je dirais qu'il était dépressif, qu'il avait perdu la boule d'un seul coup. Oh, on nage en plein délire, gardien, reprenez-vous. Vous aussi, monsieur Galet, s'il vous plaît.
Soudain, une violente lumière inonde la scène et tous les protagonistes présents se figent, interrogateurs, tandis qu'une voix s'élève.
« Ok, c'est bon pour aujourd'hui, on la garde, cette dernière prise, elle était bonne. Gérard, tu verras avec Tom pour la post-synchronisation, si la musique du compositeur colle bien à ce moment avec l'esprit du film. Allez, c'est tout bon, GG. J'ai une fin de loup. Direction le catering, ils ont dû nous préparer un bon repas. Bon, on se retrouve tous après 14 heures pour de nouvelles prises. Merci à tout le monde, à tout à l'heure. »
Merci John. Alors avant de reparler, de repartir dans quelques siècles en arrière, nous allons écouter Whitney Houston. If tomorrow is judgment day. And I'm standing on the front line. And the Lord asked me what I did with my life. I will say, I spent it with you. God is alright. If I wake up in World War III, I see destruction and poverty. And I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me. It's alright.
sleeping with me. As the years they pass us by, years. We stay young through each other's eyes. And no matter how we get on, it's okay as long as I got you, baby.
Les plumes sur RCN, Mona.
Nous sommes toujours avec Aurélie Genet, venue nous présenter son roman L'ombre et le pouvoir, publié en auto-édition. Alors Aurélie, vous déclinez l'histoire de ce royaume en nouvelles, en romans et en BD. Oui. Alors c'est vous-même qui faites les textes naturellement, mais aussi les vignettes pour les BD. Oui. Alors vous savez tout faire ?
J'essaye en tout cas. Moi je suis passionnée de dessin aussi.
D'accord.
Depuis longtemps, donc j'avais vraiment envie d'avoir des bandes dessinées dans ma bibliographie. Et je ne trouvais pas d'illustrateur.
D'accord.
Donc, je me suis lancée.
Oui, oui. Mais bon, il faut faire des recherches. Non seulement pour écrire les romans, vous avez besoin de faire des recherches un peu pour savoir un peu comment ils s'habillaient, ce qui se passait à ce moment-là, mais là aussi pour les décors.
Les costumes.
Ça doit être un peu plus compliqué, parce que vous êtes obligé. Là, quand vous écrivez votre roman, vous pouvez passer sur deux, trois choses, je veux dire, mettre une histoire un peu le fond comme ça, mais sans détail. Tandis que là, avec les vignettes, vous êtes bien obligé de peaufiner, je dirais.
Alors oui, non, parce qu'en fait, pour les romans, je me documente beaucoup.
Bah oui.
Alors comme c'est de l'imaginaire, on ne s'en rend pas forcément compte, mais en fait, je passe énormément de temps en documentation.
Ça se voit. Ça se...
D'accord. Et donc, en fait, pour la BD, c'est un peu la même chose. Et puis bon, comme je suis passionnée d'histoire aussi, je sais ce que j'ai besoin de chercher, on va dire.
D'accord.
Je pars pas dans des recherches à l'aveugle. Mmh. Je sais de quoi j'ai besoin et j'ai déjà un petit peu des idées de ce dont j'ai besoin et de ce que je vais devoir faire.
Oui, oui. Et le dessin, c'est facile ou pas ? Pour vous, c'est...
C'est un plaisir aussi.
C'est un plaisir aussi ?
Oui, oui. Bon. Alors, c'est différent, la bande dessinée.
C'est ce que j'allais dire, c'est différent de l'écriture
du roman. Oui. C'est différent dans la retranscription, mais pas dans l'idée. C'est-à-dire que quand j'écris un roman, je le visualise. J'ai pas l'impression de l'inventer, j'ai l'impression de voir un film sur lequel je vais avoir des sensations en plus de la vision et de l'audition. Et donc pour la BD, c'est pareil, je la vois. Donc ça facilite les choses, puisqu'en fait, comme c'est visuel, j'ai les images en tête, donc je sais ce que je vais dessiner.
Oui, oui. Et vous reprenez des histoires racontées dans vos romans ou les BD ont une histoire bien particulière ?
Non, les BD ont une histoire à part.
À part, c'est ça.
C'est dans le même univers, dans le même monde, dans le même pays, mais à une autre époque. Et ça peut être lu complètement indépendamment. En
fait. Indépendamment, d'accord. Alors, j'ai vu que vous n'écriviez pas de façon systématiquement chronologique. Alors, comment décidez-vous de vous atteler à l'écriture de telle ou telle partie de la saga des Dorisies ? Parce que c'est une saga des Dorisies, quand même.
Oui, en fait. J'ai commencé par une époque particulière qui était le 17e. Là, les romans vont seulement sortir maintenant. Là, ce sera une série là, de cinq tomes, dont le premier sort cette année. Là, c'est envoyé à l'imprimeur, d'ailleurs. Et donc, c'était vraiment le côté 17e. Parce qu'à l'époque où j'ai inventé cette histoire, j'étais à fond dans le 17e siècle. Donc, j'ai commencé cette histoire à ce moment-là, qui est en fait l'apogée de la dynastie d'Orissi.
D'accord.
Et ensuite, ensuite, ben, dans le roman, pour être crédible et cohérente au niveau du roman, j'ai un petit peu construit le lore du pays et l'évolution politique de ce royaume. Et j'ai fait quelques références à ce qui s'était passé au début de la dynastie. Et donc, ben, j'ai eu envie ensuite de raconter plus en détail, puisqu'en fait, l'histoire, je l'avais déjà.
Oui, oui, d'accord.
Il ne restait plus qu'à la raconter.
Ouais. Bon, je vous imagine avec un tableau Excel immense pour pouvoir remettre les personnages comme ça. Tout est dans votre tête ?
Tout est dans ma tête. Je connais bien les personnages. En fait, ils sont un peu... C'est ma famille. On n'a pas besoin pour sa famille de se faire un arbre généalogique pour retenir qui est qui et comment est telle ou telle personne. Et...
Ça dépend quand même, hein, parce que là, ça commence. Je veux dire, ça se passe sur plusieurs siècles, donc ça.
Oui, mais là, vraiment, non, je les connais en fait.
D'accord.
Voilà. Je les connais sur leur aspect psychologique, sur les détails physiques surtout.
Ouais. Et vous avez des personnages que vous préférez ? Vous avez une petite amitié particulière pour certains ?
Alors, oui, un particulièrement, mais il n'est pas dans ce roman-là.
Oui.
C'est dans le roman à venir. Autrement, je les aime tous, même ceux qui sont abominables.
Oui, parce qu'il y en a quand même gratinés. Hein.
Alors, je sais que dans la réalité, si je rencontrais quelqu'un avec ce caractère ou avec cette façon d'être, je ne le supporterais pas.
Oui.
Hein, Je ne les aime pas dans le sens où je les trouve aimables. Je les aime parce que c'est mes créations.
D'accord. Alors, j'ai vu que vous publiez en auto-édition. C'était un choix ?
Oui. Alors, parce que ben c'est aussi pour ça que j'avais écrit d'autres romans avant, pour avoir un petit peu d'expérience, et en passant par l'édition traditionnelle.
Oui.
Et là, comme en fait, c'est tout un ensemble avec des choses différentes, c'est-à-dire avec la BD, le roman, tout ça. Et c'est pas forcément publié par les mêmes maisons. Hein, ce qui est bande dessinée, nouvelle, roman, ça va pas forcément intéresser les mêmes éditeurs. Et moi, je voulais un tout, je voulais une cohérence. Et comme tout va ensemble, même si ça peut être lu indépendamment, il ne faut pas qu'il y ait des incohérences internes. En publiant par exemple un roman chez un éditeur, s'il me demande de changer telle ou telle chose ou tel personnage, ça ne va plus forcément aller avec le reste. Et ça me permet aussi de contrôler le rythme de parution, puisque je voulais que le premier tome de la BD sorte en même temps que le premier roman. Voilà, donc c'était vraiment pour contrôler cet aspect. Par contre, si j'ai d'autres romans par la suite qui ne sont pas dans cet univers, là, je me retournerai de nouveau vers une maison d'édition.
Oui. Oui, oui. Mais ça doit demander beaucoup plus de travail, non ? De gérer tout ?
C'est pas le même travail. Oui, ça fait du travail en plus, c'est sûr.
Ben oui, ça, j'imagine bien. Alors, vous écrivez comment ? Vous avez des rides, des moments privilégiés pour écrire ?
Alors, j'écris surtout la nuit.
Oui, bah, j'imagine. Parce que vous avez une vie professionnelle
déjà,
aussi.
Voilà, ah, déjà, parce que j'ai un métier, hein, donc un autre métier. Donc voilà, c'est la nuit, c'est pendant les vacances. Et puis c'est des périodes, c'est-à-dire que je ne me force pas, je laisse venir. Il y a des périodes d'écriture où je vais écrire très très vite. Et puis d'autres périodes où ben, ce n'est pas le moment. Et donc ben, tant pis, pendant ces périodes-là, je fais d'autres choses.
Ah, bah c'est bien. Alors, j'avais lu plusieurs de vos romans qui avaient été écrits avant cette saga sur la Raldé. Alors, vous continuez ou vous continuerez à écrire des romans qui ne relèvent pas de cette dynastie ?
Oui, oui, bien sûr, j'ai des idées, j'ai des choses en cours.
D'accord, mais pas parallèlement. Donc, vous allez terminer un peu cette...
Non, parallèlement.
Parallèlement ?
Parallèlement. Ben, déjà parce qu'au niveau de la Raldé, tout est presque prêt, en fait. C'est-à-dire que les romans vont sortir un par un chaque année, mais c'est plus qu'une finalisation. Tout est déjà là. Je ne me suis pas lancée sur les premiers sans savoir où j'allais.
Ouais.
Donc, c'est plus de l'écriture à proprement parler. Donc, pour l'écriture elle-même, oui, j'ai d'autres romans qui
Ils commencent. Ils sont dans les tiroirs ?
Oui, c'est ça.
Vous avez commencé à les... À écrire ou pas ?
J'ai jeté des idées sur le papier, on va dire.
D'accord. Oui, mais il y a, même dans ceux que j'avais lus, il y a toujours cette espèce de petite magie derrière des petites choses un petit peu fantastiques.
Oui, ben c'est principalement de toute façon de la littérature de l'imaginaire.
Oui, oui.
Hein, donc là, dans ce que j'ai prévu, voilà, il y a de la science-fiction. Mais il va aussi y avoir un roman qui n'est pas d'imaginaire du tout.
D'accord. Et vous aimez changer de genre comme ça ?
Oui, justement, oui, pas faire toujours la même chose. Je m'ennuierais si, si je restais toujours dans le même genre.
Bah déjà, s'ennuyer avec votre production, c'est déjà un petit peu difficile, parce que quand même, il faut écrire tous ces livres. Hein.
Oui, mais comme je disais, ils viennent de même, en fait. C'est pas quelque chose que je me force à faire. C'est quelque chose que j'ai en moi et que je couche sur le papier.
Oui, mais il faut quand même le coucher sur le papier. Je veux dire, même si on a ça en tête, ça demande quand même un travail d'écriture un petit peu. Parce que vous avez fait des recherches aussi au niveau du vocabulaire.
Oui, mais après les recherches, même si je n'écrivais pas, à la limite, je les ferais. Puisque oui, vous êtes, comme j'aime beaucoup ce qui est historique, de toute façon, les romans sont quand même aussi inspirés de l'histoire, même si ça se passe dans un pays qui n'existe pas.
Oui, oui. Alors vous disiez que vous avez un roman qui est à l'impression, c'est ça, là, pour l'instant?
Oui.
Oui, et vous en avez un autre en cours?
Alors, il y a le roman qui a l'impression, plus le deuxième tome de la bande dessinée.
Oui.
Et puis, il y en a quatre derrière, puisque c'est une série. Hein. Mm-hmm. Et puis là, j'ai commencé, donc, voilà, deux idées. Un roman de science-fiction et un roman de littérature générale.
D'accord. Et celui qui va apparaître dans la Raldée, ça se situe dans quel
donc siècle?
Donc,
c'est celui qui se situe au XVIIe siècle.
C'est celui-là, au XVIIe. Oui, d'accord.
Donc là, en cinq tomes. Là, c'est une série. Celui-ci est un roman unique qui se lit tout seul, en fait. Oui. Et là, c'est donc une série de cinq tomes.
Donc, il faudra les prendre dans l'ordre ou pas?
Oui, dans l'ordre. Oui, c'est une suite. C'est-à-dire que c'est découpé en cinq tomes, mais c'est bien une seule aventure.
Oui. Alors, c'est sûr, vous êtes auteur confirmé. Mais alors, quel genre de lectrice êtes-vous?
Lectrice confirmée aussi.
Non, mais quel genre de livre lisez-vous?
Alors, je ne lis pas trop de moderne. Je suis plus lectrice de romans du 19e,
oui.
Que ce soit du réaliste ou du roman d'aventure, 19e ou avant. Hein.
Oui.
Voilà, après, j'ai quelques auteurs plus actuels que j'aime bien, mais... Voilà, je ne suis pas très moderne.
Mais comme vous faites, vous parlez, effectivement, vous utilisez le langage qui était à l'époque de vos romans. Quand vous revenez dans la vie normale, ce ne sont pas des mots qui reviennent régulièrement? Je veux dire, il n'y a pas des mots qui vous échappent comme ça dans votre...
Alors certains, peut-être. Hein, j'utilise peut-être quelques archaïsmes de temps en temps, c'est possible. Mais non, en fait, c'est l'ambiance de l'histoire qui fait que les mots viennent avec l'histoire, en fait.
Oui, oui. Bon. Mais moi, je dois dire que je n'ai pas tout trouvé. Pourtant, j'ai un dictionnaire de l'ancien français. Hein. Je n'ai pas trouvé tous les mots dedans. Ça m'a fait rire. Je me suis dit, bon, il va falloir que je prenne...
Alors, j'avoue que je lis aussi des romans du 17-18e siècle dans des éditions anciennes, donc avec aussi la graphie et l'utilisation ancienne et qui n'est plus forcément tout à fait la même aujourd'hui.
Oui, oui. Alors, je suppose que quand on lit en auto-édition, il faut se faire connaître.
Oui.
Donc, vous faites des salons du livre?
Je fais des salons du livre, oui, régulièrement,
oui.
Sur le secteur, hein, dans la région, entre autres envers les imaginales, qui est un incontournable
bien sûr,
quand on écrit un imaginaire.
Bien sûr. Et vous aimez rencontrer les gens?
Oui, c'est important. Déjà, on apprend à présenter son histoire et à partager et à donner envie. De lire notre histoire. Et puis, on va avoir les retours aussi des gens qu'on a vus, des lecteurs qu'on a vus les années précédentes et qui reviennent pour parler des livres. Alors ça, voilà, ça c'est un plaisir. Ça, c'est...
Ben oui, j'imagine.
Voilà, ça n'a pas de prix parce qu'on se dit qu'on a écrit pour quelque chose, finalement.
Et alors, vous avez un site, bien sûr. Vous voulez, pour nos auditeurs, vous voulez bien nous communiquer le nom de votre site où on peut vous trouver?
Alors, j'ai un site qui parle justement de la Raldée, hein, donc sur les choses en cours. Et j'ai noté l'adresse du site parce que je ne la sais pas par cœur. Donc, c'est araldé.gymdocite.com.
Gymdocite, vous voulez appeler parce que...
C'est J-I-M-D-O-S-I-T-E.
Oui, parce que ce n'est pas évident.
Voilà, non, mais c'est un serveur de site.
Ah, d'accord. Voilà. Oui, d'accord, beaucoup. Alors, merci beaucoup à Aurélie Genet d'être venue nous présenter son roman « Londres et le pouvoir » publié en auto-édition. Merci à John Bullitt pour la lecture de sa nouvelle « La journée du championnat ». Merci à Joris qui était à la technique aujourd'hui. Nous nous quittons avec les Pink Floyd. Au revoir à tous et à bientôt sur RCN pour une nouvelle émission des Plumes.
Au revoir.
Et au revoir. We'll be right back.